Téléspectateurs et téléspectatrices.
Radio spectateurs et radio spectatrices. Ou auditeurs, auditrices.
Auditeurs, auditrices. Tous les gens qui nous écoutent, bref, amis. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce nouvel épisode de Cinébranche, l'émission qui n'a pas peur de se garocher du popcorn par la face. Mais seulement en cas de très mauvais film.
Évidemment.
Fait partie des règles, sinon ça marche pas. Je suis Louis Laramé et je suis accompagné, comme toujours, de mes co-animateurs Mélina Lopez-Nado.
Bonjour.
Et Jim Boulay.
Allô.
Un plaisir de vous revoir. Jim, qu'est-ce que tu as à nous dire cette semaine? As-tu des belles choses qui sont passées?
Mais qui vont se passer. Belles ou moins belles, ce sera à toi de décider. Mais vous vous souvenez de Frances McDormand, l'actrice qui a joué notamment la Madame Fâchée dans 3 Billboards?
Elle était
exceptionnelle. Ben cette madame-là, Madame McDormand, il semble qu'elle va être peut-être dans deux gros blockbusters dans les prochaines années. Elle pourrait, premièrement, jouer la mère du Joker dans le nouveau film sur l'origine du Joker de Todd Phillips, qui pourrait quand même être un film assez intéressant. Mais aussi, et ça, ça ouvre un autre panel de débat, elle pourrait jouer dans le film King Kong versus Godzilla, qui ne sera probablement pas écoutable.
Le premier n'était pas si... On va quand même parler d'une femme qui a travaillé sur l'original de Fargo de 96, sur Burn After Reading des frères Coen. C'est quand même une femme qui a une carrière impressionnante.
Ah, je m'inquiète pas d'elle. Je m'inquiète du scénario de ces
non,
films.
C'est une autre histoire. Département. Moi, cette semaine, je parle aussi de choses qui peuvent être bonnes ou pas, mais qui historiquement ne le sont pas. C'est-à-dire que le DC Universe continue de s'expandre. On vient d'avoir le premier poster ainsi que les premières nouvelles sur Aquaman, le prochain film dans l'univers de tous ces super-héros-là. On a eu aussi les premières entrevues. On sait maintenant que c'est la quête d'Aquaman pour retrouver le sceptre de la... le trident de l'Atlantis, qui... Bon, parce que c'est bien important, c'est des gens qui sont dans l'eau, puis des poissons, puis sceptre, trident de l'Atlantis pour permettre au personnage de devenir le roi de l'Atlantis. Plus sérieusement, Mélina, quelles sont tes nouvelles de la semaine?
Ben oui, en fait, moi, vous savez, l'autre fois, à un moment donné dans l'année, je vous avais parlé des Oscars, des Academy Awards. Là, aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, des Emmy Awards. Donc, parce que les nominations sont sorties le 12 juillet dernier. Donc, les Emmy Awards, c'est les prix pour les émissions de télévision aux États-Unis. Et la cérémonie, donc, va se dérouler en septembre. Et, fait intéressant, Netflix est celui et le diffuseur qui a le plus de nominations, avec 36 nominations en tout.
Eh bien.
Quand même suivi de près par HBO, mais c'est quand même intéressant parce que on n'est pas dans la télévision traditionnelle non plus. Et en ce moment, l'émission qui a le plus de nominations, c'est l'émission American Crime Story, qui va de l'avant avec 9 nominations.
Ça, c'est l'émission qui reprend des vraies histoires de crime puis qui les refait, là?
Oui. Et ensuite, sinon, on a, comme d'habitude, Game of Thrones, qui est nominé quand même 7 fois, ce qui n'est pas rien, Stranger Things 5 fois. Donc, ça va être intéressant à voir, comme toujours. Et intéressant fait à noter, il y a l'actrice Sandra Oh qui est nominée pour son rôle dans Killing Eve et c'est la première femme d'origine asiatique à être nominée pour un premier rôle aux Emmy Awards. Donc déjà, elle marquait l'histoire. Donc Sandra Oh, une Canadienne que j'ai connue dans Grey's Anatomy pour son rôle de Christina Yang.
Ah, je me demande d'où ça venait ça.
Et voilà.
Mélina, cette semaine, t'as été voir un film de tourisme. Un film qui se passe en Europe. Cette semaine, tu as été voir Hôtel Transylvanie 3.
Exactement, Louis. Je suis allée de gaieté de cœur voir Hôtel Transylvanie 3, vacances monstrueuses.
Je t'arrête une seconde. Là, il y a eu des questions qui ont été posées la semaine dernière à savoir si je savais que je n'étais pas vraiment drôle au travers mes blagues.
Effectivement, ça a été posé. Est-ce que quelqu'un a répondu?
Je suis au courant.
Ah, d'accord.
Mais je pense que c'est le devoir de tout bon comédien que de continuer malgré tout.
Écoute.
Au travers le feu, les flammes et les colibets, je vais continuer... de tenter des jokes poches.
Voilà. Alors, c'est le troisième film de la série de films Hôtel Transylvanie, qui sont des films d'animation, hein, qui sont produits par Sony. Et intéressant, j'ai appris que donc, c'était une idée originale de Todd Durham, qui, lui, a écrit carrément une bible pour 7 films d'animation, une série télé, des jeux vidéo, des produits dérivés, une chaîne d'hôtels et même un parc thématique à propos de Hôtel Transylvanie. Il a vendu le tout à son nid, donc, dès le premier film. Et donc, peut-être qu'un jour, hein, on va pouvoir aller dormir dans l'hôtel de Hôtel Transylvanie. Hein?
J'en meurs d'envie.
Ah oui, moi aussi. Donc, en fait, Hôtel Transylvanie, c'est quoi? C'est un hôtel qui a été construit par le comte Dracula, hein, le fameux vampire, en Transylvanie, hein, Hôtel Transylvanie. Mais la particularité de cet hôtel-là, quand même, c'est que c'est un hôtel qui est réservé aux monstres. Et c'est là que comte Dracula élève sa fille qui s'appelle Mavis. Donc, Mavis.
Donc, mon clou.
Mon clou, voilà. Donc, dans le premier film de la série, hein, Mavis tombe en amour avec un humain qui s'appelle Johnny. Et ils finissent par recevoir l'approbation de Dracula pour se fiancer. Parce qu'au début, il n'était pas d'accord que sa fille tombe en amour avec un humain. Hein. Et dans le deuxième film, là, Mavis va donner naissance à leur premier enfant, en fait, qui est un mi-humain, mi-vampire, qui va s'appeler Denis. Donc, Mavis et Denis.
Je sens un parfum de sarcasme dans ta voix.
Un peu quand même.
Une certaine lourdeur dans ce que tu penses de cette étape-là.
Donc, le troisième film, donc je vous ai expliqué un peu l'historique de la vie de Comte Dracula à l'Hôtel Transylvanie. Donc, dans le troisième film, celui que je viens d'aller voir, Mavis donc décide d'offrir à son père un voyage de famille. Mais ils décident donc de partir tous ensemble en croisière et bien entendu les amis de Dracula vont se joindre à eux. Donc parmi ses amis à Dracula, il y a entre autres Frankenstein et sa femme, ainsi que le fantôme de l'opéra qui est en résidence à l'hôtel Transylvanie à l'année longue.
Fait que c'est des monstres connus, là. C'est des personnages de trucs d'horreur connus qui reviennent dans le film, c'est
certains,
ça?
Certains, oui, oui. Okay. Voilà, quand même. Donc on va aller écouter la bande-annonce.
Voici les clés de votre chambre. Je vous souhaite un horrible séjour. J'ai dit que tu pouvais rester avec moi tant que tu étais bien sage.
Monsieur, la famille Nonos au complet est arrivée.
Oui, merveilleux. Justement, je les attends. Oh non.
Gentil.
Ah, j'ai besoin de vacances.
L'année prochaine, préparez-vous à prendre des vacances monstrueuses.
Une croisière?
Surprise!
Oh non, 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 non!
Papa!
Mais ça a l'air, je veux dire, ça a l'air le fun, dans le fond, là. Ça a l'air sympathique, comme bande annonce.
Oui.
Et c'est ici qu'on voit que Jim, c'est l'optimiste des trois.
Ben, j'essaye, parce que sinon, toutes nos vimes vont cracher aujourd'hui, fait que...
Non, mais en fait, pour être honnête avec vous, je n'ai toujours pas vu, en fait, ni Hôtel Transylvanie 1, ni le 2, et j'avais pas vraiment d'intérêt, ni envie d'aller voir ce film-là, et carrément, c'est vraiment pas un film qui m'a fait triper, c'est un film que je considère comme étant un film bof. Donc, il n'y a pas d'erreur majeure dans le film, l'histoire est correcte, même si elle est extrêmement prévisible, et il y a quelques bonnes blagues quand même qui viennent sauver un peu le film. Je pense que l'idée originale de cet univers-là était bonne, mais l'impression que ça me donne, c'est que tout ça a été développé seulement dans un but lucratif, dans le but de créer une grosse franchise qui va rapporter des milliards de dollars et qu'il n'y a pas vraiment de recherche approfondie pour la création du scénario. Fait que contrairement à plusieurs autres films, il n'y a pas vraiment de morale, il n'y a pas de concept intéressant vulgarisé aux enfants, il n'y a vraiment rien. J'ai pas vécu d'immersion, je me suis pas identifiée au personnage et j'ai trouvé l'histoire trop facile. Mais au moins, techniquement parlant, les animations étaient belles, donc il n'y avait pas d'erreur flagrante à ce niveau-là. Mais c'est sûr que je vous dis tout ça, mais je suis clairement pas le public cible pour ce film-là. Mmh,
un peu vieille.
Oui, ben c'est ça, tu sais. Je pense que les enfants vont quand même aimer ça, ce film-là. Mais pour ma part, ça va être un film qui va être vraiment vite oublié. Je veux dire, entre ça et, par exemple, Les Incroyables 2, qui est encore au cinéma, je vais recommander clairement Les Incroyables 2. Parce qu'il y a vraiment, des bons films d'animation. Il y en a qui sont intéressants. Il y en a qui m'ont vraiment fait triper, comme par exemple le film Inside Out, qui détient pour moi la palme des films d'animation, où on va vulgariser des concepts liés aux émotions, au cerveau. C'est super intéressant pour les enfants aussi. C'est vraiment bien fait. Mais Hôtel Transylvanie 3, c'était bof. Hein? Vraiment,
oui, parce que tu sais, il y a des films, puis même là, c'est sûr que tu parles d'Inside Out, c'est des films quand même un peu plus intelligents, moins divertissants, plus intelligents, mais il y a des films divertissants, je pense à L'Ère de glace, ces films-là, qui réussissent quand même à faire rire les adultes.
Oui.
Il y a deux niveaux, là.
Moi, j'ai pleuré devant Histoire de jouets 3.
Oui, moi aussi.
Je pense encore que Shrek est un film extraordinaire. Quoique, encore une fois, ça, c'est un film qui a deux niveaux pour enfants et pour adultes, où est-ce que les blagues sont partout, sont...
Ben, mais, c'est ça.
Mais c'est un art de réussir à garder tous tes publics avec des niveaux d'humour différents sans que ça soit plate.
Oui, définitivement.
Mais là, visiblement, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné. Puis je pense qu'en fait, c'est juste un film, c'est une histoire qui est vraiment paresseuse. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas nécessairement, comme tu dis, ça prend un effort pour faire un bon film d'animation. Et dans ce film-là, l'effort n'a pas été mis. Donc, je ne peux pas me prononcer si c'était la même chose pour le 1 ou le 2 parce que je ne les ai pas vus. Mais pour Hôtel Transylvanie 3, j'y vais avec un 3 sur 10.
Ouch!
Oui, non, j'ai vraiment pas trippé. Mais comme je disais, les enfants dans la salle avaient de l'air d'aimer ça. Donc, c'est juste pas venu me chercher moi en tant qu'adulte.
Fait que c'est décevant, mais 3 sur 10. J'espère que la moyenne de nos critiques aujourd'hui vont augmenter et non pas descendre.
Juste se stabiliser. On verra bien.
Je pense qu'on va y aller en croissance. Jim, tu n'as pas été voir un film à propos de monstres. Mais
non.
Peut-être un peu. Mais en tout cas.
Presque.
En tout cas, t'es devant sur des gens qui avaient beaucoup d'ambition.
Est-ce que The Rock est considéré comme un monstre?
Ben, c'est en tout cas, quand c'est limite. Mais non, ce que je veux dire, c'est que tu as été voir un film pour des gens très ambitieux. Des gens qui grattent le ciel.
Oh!
Oui, en quelque sorte. Oui, effectivement, j'ai été voir le film Gratte-ciel. Quel jeu de mots, Louis.
Très fort derrière le micro, Jim.
Ou en version originale, Skyscraper. Donc, un film américain, vous l'aurez compris, d'action, de suspense, écrit et réalisé par Rawson Marshall Turber, le gars qui a réalisé Nous sommes les Miller et Les Mystères de Pittsburgh. Le film Gratte-ciel met en vedette l'idole de tous, de tous les Louis en tout cas, Dwayne The Rock Johnson et Neve Campbell. Pourquoi n'en écouterions-nous point une bande-annonce, Louis?
On fait ça, là?
Ah oui, donc.
OK.
The Pearl est la tour la plus haute et la plus moderne au monde. Vous avez construit une ville à la verticale, mais vous y avez apporté tous les problèmes de sûreté et de sécurité qu'on peut imaginer.
On croyait que l'étage était vide.
Moi aussi.
Tous ces problèmes se retrouvent concentrés dans votre immeuble, mais ils sont coincés sur 240 étages. Personne ne peut prévoir ce qui arriverait en cas de pépin. Mais je ne suis qu'un simple agent de sécurité. Qui suis-je pour donner mon avis ? Qu'est-ce qui se passe?
Le 96e étage est en feu.
Tout va bien aller, je te le promets.
Non, 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 non!
Papa!
Dis-moi, est-ce que tu tiens vraiment à ta famille?
Alors oui, c'était la bande-annonce du film Gratte-ciel, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure en version originale, Skyscraper. Bon, OK, le film s'appelle Gratte-ciel. Vous aurez compris que The Rock, ou plutôt Will Ford, de son personnage, va devoir s'occuper de la sécurité du plus grand et technologiquement avancé de tous les gratte-ciels de Hong Kong et du monde. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ancien de l'escouade tactique du FBI, après un incident tragique, Will a perdu l'une de ses jambes.
Ah.
Et c'est recyclé dans la sécurité privée.
Ça semble honnête.
C'est jusque-là correct. C'est expliqué en flashback au début du film. Jusque-là, ça va encore. Will, donc, a une jolie femme et deux jeunes enfants lorsqu'il se présente pour une entrevue au sommet de la tour avec le créateur et propriétaire du complexe, un homme d'affaires chinois sérieux. Je vais l'appeler à partir de maintenant l'homme d'affaires chinois ou le chinois. C'est en fait le frère de Will, qui travaille déjà pour le monsieur chinois, qui a facilité les choses pour que son frère ait l'emploi. Après quelques minutes de discussion avec l'homme d'affaires chinois et de quelques démonstrations d'objets technologiques nécessaires pour éviter un deux sexes machina à la fin du film, le chinois lui remet une tablette, donc une tablette électronique, lui permettant de contrôler et d'être super administrateur route de l'ensemble des fonctions de sécurité, de la ventilation, etc. de l'immeuble géant. Évidemment, pas besoin de mot de passe ou d'authentification, à facteurs multiples. Non, une simple reconnaissance faciale de Will suffit à protéger l'accès à cet outil permettant de contrôler et de mettre en péril le plus haut building du monde. Wow. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Déjà,
ça part, ça
l'informaticien
part
en oui. moi trouve ça rough un peu.
C'est non,
ça.
Mais le gars de film d'action en moi trouve ça vraiment complexe pour pas grand-chose.
On va voir si tu t'offres. Heureusement, The Rock est à toute épreuve. Rien ne va lui arriver. L'intégrité du building est assurée et il va être heureux avec sa petite famille et son nouvel emploi à regarder les pandas manger du caramel et puis des muffins. Non, je vais divulgacher, je vous l'annonce tout de suite parce que le Québec a le droit de savoir. Ça se passera pas comme je viens de le dire, ça serait un petit peu trop facile, il se passerait pas grand-chose d'intéressant. Donc pour éviter ça, le réalisateur et scénariste a choisi de faire en sorte que Will se fasse voler la tablette, donc la magique tablette, dans un complot dirigé par son propre frère qui va mourir très tôt dans le film. On sent bien la rancune et la jalousie qui l'ont poussé à faire un tel geste très crédible. Heureusement que le deuil sera de courte durée parce qu'on oublie son frère pour le reste du film et ça a pas l'air d'affecter Will plus que ça. Donc malheureusement pour Will, sa femme et ses rejetons, ça ne s'arrête pas là. Mais non, imaginez-vous qu'en fait, le groupe qui a volé la tablette de Will avec l'aide de son propre frère et d'une mystérieuse femme ninja n'avait pas du tout comme objectif d'aller vendre la tablette au pawn shop et de s'acheter une grosse Wildcat. Non! Figurez-vous qu'en fait, ça fait partie d'un complot beaucoup plus grand, un complot machiavélique qui vise à faire brûler le gratte-ciel et donc forcer l'homme d'affaires chinois à ouvrir son coffre-fort contenant un objet au pouvoir infini, une clé USB.
Wow!
Ah, c'est bon que les films puis les clés USB, c'est tout le temps comme...
Exactement, c'est tout le temps comme...
C'est le Deus Ex Machina des objets à voler. C'est ça. Ça hack les ordinateurs avec les crypto-clés.
Ça règle tous les problèmes et ça cause tous les problèmes. Alors, heureusement, malgré l'incendie qui a fait prisonnier des flammes la famille de Will et le groupe de criminels armés comme dans un film de Steven Seagal, Will... Maintenant principal suspect de l'incendie et pourchassé par les policiers, s'enfuit sur une moto de police et se rend jusqu'au gratte-ciel en flammes où, dans une folle cavalcade, escaladera à main nue. N'oublions pas qu'il n'a qu'une jambe et une jambe en bois. Une grue géante dont le bras est placé comme par hasard juste au-dessus de l'incendie. Il pourra ainsi, du haut de ses 400 livres de muscles, déjouer les lois de la physique et sauter dans le bâtiment géant pour secourir sa famille. Quel homme!
C'est crédible!
Quel homme! Évidemment, il n'est pas seul. Il a avec lui son arme ultime, le duct tape.
Oh mon Dieu.
Oh boy.
Donc, pardonnez-moi d'avoir un petit peu résumé les deux premiers actes du film, gratte-ciel. Sachez que ça continue encore dans ce sens-là, encore pendant au moins une bonne demi-heure et un peu plus. Donc, vous serez pas... Il vous reste du jus, là, si vous voulez vraiment tenter l'expérience. Ce film-là est tout, sauf crédible. Ça aurait été super bon dans les années 90, entre Clanche puis Judge Dredd, mais tous les films de Steven Seagal...
Hey, on ne dit pas de mal de Judge Dredd.
Mais justement, ça marchait dans les années 90. Mais là, ça ne marche pas. Parce qu'en 2018, en tout cas, disons qu'il ne faut pas trop connaître la technologie, la logique, la vie pour apprécier ce film-là dans son entier. Point positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Le pace, comme on dit en anglais, le rythme est bon. Pour un film d'action, il n'y a pas de longueur, c'est continu. Point négatif, tout le reste, surtout l'histoire. Et surtout, les jokes de duct tape plates en plein milieu de l'action pour détendre l'atmosphère. Donc, les raisons pourquoi tout le complot se produit ont jamais de sens. Ils sont pas vraiment expliqués. C'est vague, c'est flou. On parle de d'enregistrement de transactions sur une clé USB alors qu'il y a des moyens de stocker ça, de copier ça partout. Ça n'a aucun sens. Bon, après ça, le risque, là, dans la bande-annonce, vous avez entendu, à un moment donné, où il explique que le building a peut-être pas été si bien pensé au niveau sécurité. Ça, là, ce n'est pas dans le film. C'est dans la bande-annonce et ce n'est pas dans le film.
Ils ont enlevé ça du film.
C'est la seule chose qui explique un peu quelque chose là-dedans et on ne l'a pas. En tout cas, si ça l'est, mon cerveau s'est mis à off pendant le film, mais je suis certain que ça ne l'est pas. Le risque d'un projet aussi d'envergure que de détruire un building comme ça n'a aucun sens. Tout est prétexte à faire brûler le plus grand building du monde qui, en passant, est fait de métal, de béton, de verre, mais brûle comme des bâtons de popsicle et bibis d'huile. Tout est prétexte à faire marcher The Rock sur des cadres de fenêtre au 200e étage d'un building en feu, juste avec une jambe puis du duct tape, je donne un 2 sur 10 au film Gratte-ciel. C'est ma plus basse note à vie, je pense.
Wow. C'est plus bas que moi.
C'est vraiment pas bon. Parce que, la raison, en vérité, le film en lui-même mériterait peut-être pas un 2 sur 10, mais par principe, j'ai pas le choix de donner cette note-là, parce que de distribuer un film comme ça, c'est un peu de dire, pas besoin de scénariste pour faire un film, on met des explosions, du feu, du duct tape, puis The Rock, puis ça va se vendre pareil.
Soyons honnêtes, Arme létale, c'est rendu au 4 avec à peu près ça comme scénario?
Je me souviens pas de Arme létale.
Fatal Weapon était pas bon.
Oui, mais
attends,
encore là.
Histoire, mais c'était super.
C'est des vieux films. Ouais. À l'époque, ça passait mieux, ça. On avait pas besoin, on connaissait pas trop la technologie. On faisait pitonner un nerd sur un ordinateur, puis ça expliquait tout. On savait pas pourquoi, mais il avait hacké quelque chose, puis ça marchait. Aujourd'hui, ça marche plus. Ça.
Un jour, je vous parlais de mon amour pour Opération Swordfish, puis comment est-ce qu'au niveau technologie, ce film-là fait zéro sens.
C'est clair qu'il fait zéro sens, mais il était quand même bon, ce film-là. Si jamais il fait chaud, vous voulez aller voir un film pour rire du film, vous pouvez y aller sans aucun problème. Vous ne serez pas déçu par le niveau impressionnant de déception. Donc, déçu du niveau de déception. Hein? Pas pire, ça. Mais trois points en terminant. Premièrement, si vous avez le mal des hauteurs, allez pas voir ça, vous allez être malade. Je vous garantis, là. J'ai trouvé ça rough.
T'as le mal des hauteurs?
J'ai le mal des hauteurs. Puis normalement, dans un film, ça passe là, quand j'ai les pieds bien stables. Mais là, j'ai trouvé ça très difficile à regarder. Nonobstant de l'appréciation ou pas du film. Là. Deuxième point, si j'étais policier à Hong Kong, je serais extrêmement fâché après avoir vu ce film-là, parce que vraiment la place des policiers laisse à désirer dans ce film-là. C'est des gens naïfs, un peu. J'ai un peu l'impression d'être avec les messieurs rouges dans Star Trek. Et troisième point et dernier point, si on continue à faire des films comme ça, il n'y aura plus de super-héros, parce que The Rock peut presque voler, a une force surhumaine, même à une jambe, il réussit à escalader une grue d'un kilomètre de haut en 2 minutes. Merci, bonsoir.
Quel homme!
Quel homme, quelle montagne. Bon, fait que 2 sur 10, ma
pour le film Gratte-ciel.
La croissant est en train de sacrer le camp.
Ça va pas.
Merci beaucoup, Jim.
C'est le moment des sorties cinéma. Je suis sorti avec mes chums de filles.
Non, je ne suis pas sorti avec mes chums de filles, mais j'ai sorti cinéma cette semaine. On va commencer par un gros 1 que j'ai quand même hâte d'aller voir, même si j'ai pas vu les précédents. C'est 1991, la comédie québécoise réalisée par Ricardo Troggi, mettant en vedette Jean-Carl Boucher, Sandrine Bisson, Claudio Colangelo, Juliette Gosselin, Alexandre Nachy et Simon Pigeon. En 91, j'avais 21 ans, j'étais à l'université et tout le monde partait. Certains dans l'Ouest canadien, d'autres aux États-Unis. Moi, ça a été l'Italie. Pas parce que j'avais l'appel des grandes capitales culturelles. Non, pour suivre la femme de ma vie. En 81, j'étais persuadé que c'était Anne Tremblay. En 87, j'ai changé d'idée, c'était Marie-Josée Lebel. Mais oubliez ça, c'est en 91 que j'ai rencontré la vraie femme de ma vie, Marie-Ève Bernard. C'est pour ça que le jour où elle m'a donné rendez-vous à Perugia, je suis allé la rejoindre, puis comme d'habitude, ça a été compliqué.
Ça, c'est là, vraiment le texte de la bande-annonce.
Ça, c'est le synopsis qui m'a été donné, mais effectivement, c'est le texte de la bande-annonce. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre le ton, mais je suis pas bon. Blindspotting, comédie dramatique américaine réalisée par Carlos López Estrada. Colin doit passer à travers ses 3 derniers jours de probation pour avoir la chance de profiter d'un nouveau départ. Lui et son meilleur ami d'enfance, Miles, travaillent comme déménageur. Et quand Colin est témoin d'une fusillade policière, l'amitié entre les deux hommes est mise à rude épreuve. La bande-annonce pour ça était quand même cool. Ça a l'air vraiment trash. Le film que Jim ne pourra pas manquer. Le moment cinématographique de l'année où est-ce que tous les trois on va s'entendre sur la qualité du film. Mission Impossible, répercussion.
Oh mon Dieu!
Ah. C'est original de Mission Impossible, Fallout, film d'action américain réalisé par Christopher McQuarrie. Mettant en vedette nul autre que Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et un de mes comédiens britanniques favoris, Simon Pegg. Les meilleures intentions reviennent parfois nous hanter. Mission Impossible, répercussion retrouve Ethan Hunt et son équipe de la IMF en compagnie d'alliés familiers dans une véritable course contre la montre alors qu'une mission a dérapé.
Moi, je vais te dire un truc. J'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé que c'était la bande-annonce de Mission Impossible la plus dark que j'ai jamais vue. Tom Cruise extrêmement sérieux dans
Ils ont pris un virage weird dans les derniers films où justement, ça s'en va comme réaliste.
Oui, c'était une bonne chose parce que dans les autres...
Ouais, ouais, mettons 5-6, ça commence à être compliqué. Ouais, 3-4, ça commence à être compliqué. Ouais. Mais 4, il était bon. Mais c'est pas... En tout cas... Shock and Awe, drame biographique américain réalisé par Rob Reiner mettant en vedette Jessica Biel et James Marsden ainsi que Woody Harrelson, Tommy Lee Jones et Mila Jovovich. Deux reporters déterminés, Jonathan Landy et Warren Strobel, leur patron John Walcott et leur collègue correspondant de guerre Joe Galloway, qui ensemble lèvent le voile sur une machination des plus hautes instances du gouvernement américain et exposent la vérité sur les événements qui auront déclenché la plus coûteuse et longue guerre de l'histoire des États-Unis. Suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, le président George W. Bush visait l'expulsion de Saddam Hussein au pouvoir de l'Irak, tandis que la majorité des journalistes de Washington ne remettaient nullement en question les intentions du président, Landy et Strobel creusaient plus loin. Cependant, ils apprirent rapidement qu'exposer la vérité et trouver des gens qui sont prêts à écouter sont deux choses bien distinctes. Surtout quand le son entêtant du clairon de guerre étouffe toute dissidence. Un film pour faire plaisir à Michael Moore. Un autre film qui va faire plaisir à Jim, j'en suis sûr, c'est Teen Titans Go, le film. Teen Titans Go, To The Movies. To The Movies, et la version originale. Animation américaine réalisée par Peter Riddle-Michael et Aaron Horvath, mettant en vedette Kristen Bell, Tara Strong, Will Arnett, Carrie Payton, Greg Sipes et Indon Walsh. Les titans ont l'impression que tous les grands super-héros tiennent la vedette dans leur propre film.
Pourquoi ça me ferait plaisir, ce film-là? Je comprends pas trop.
Parce que t'aimes pas les choses, le fun.
Évidemment.
Elle était bonne, oui.
Under the Tree, comédie dramatique islandaise-française réalisée par Hafstein Gunnar Sigurðsson. Sigurðsson, je m'excuse. Il y a vraiment pas un nom là-dedans qui a pas des apostrophes, des accents que je comprends pas. Bon. Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d'aménager chez ses parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d'une querelle de voisinage dont le déclencheur est l'ombre imposant d'un arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se transforme en guerre sans pitié. J'ai pas vu de bande-annonce, mais honnêtement, j'aimerais ça voir ça.
Ça me fait penser au, tu sais, le film arabe, libanais, ou je sais plus trop de quel pays, là, ouais, vu que ça partait d'une petite chicane, ouais. Puis ça virait comme un truc national.
Ouais, mais national. Là, c'est islandais, fait que souvent, ces gens-là sont weird.
On va voir.
Je sais pas. Une part d'ombre, c'est un suspense belgeo-françois, réalisé par Samuel Tellman, mettant en vedette Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lallieu, Christophe Paou, Myriam Acadio et Johan Blanc. David est un jeune père de famille comblé, une femme qu'il aime, deux jeunes enfants adorables, une bande de potes soudés avec lesquels ils partent en vacances en tribu. Mais au retour de leur dernier séjour dans les Vosges, David est interrogé par la police dans le cadre d'un meurtre. Rapidement, l'enquête établit que David, sous des dehors irréprochables, n'avait pas aussi une vie aussi lisse que ce qu'il prétendait. Même si Noël, son meilleur ami, et Marco, son avocat, le soutiennent sans condition, le doute se propage et des clans se forment. C'était ça pour cette semaine pour les sorties. Ben,
pas mal d'affaires.
Un slate quand même bien rempli, donc ouais. Beaucoup de choix pour aller voir des films la semaine prochaine. Dans cette deuxième demi-heure, Jim nous parle du festival de films Ciné-Vu. Une discussion qui s'annonce fort intéressante. Mais avant ça, j'ai été voir un film à propos des mouches, ouh, des insectes, des...
Des guêpes.
Des super guêpes.
Des fourmis.
Des fourmis, en fait.
Ouais. De Ant-Man et la guêpe. Mm. Oh, yeah! Qui est le, je sais plus trop combien-tième, Christy de film dans l'univers...
Marvel.
Là, je suis 20e, 30e. C'est jamais clair. Surtout considérant que la position d'Ant-Man a toujours été un peu drôle par rapport aux autres, parce que ça a toujours été des films plus petits, plus intimes. On ne retrouve pas les enjeux dont le monde dépend, qu'on retrouve dans les Avengers ou dans Captain America. C'est vraiment plus quelque chose qui se passe au niveau de Scott Lang, jeune père de famille divorcé, cambrioleur avec un passé trouble, qui s'est ramassé par inadvertance à voler l'inventeur du saut de Ant-Man et contre son gré s'est ramassé à incarner le rôle du nouveau Ant-Man.
Fait que c'est pas le premier Ant-Man, ça veut dire. Il a comme pris le costume puis il est devenu, là.
Oui. La guêpe également, c'est sa deuxième incarnation. Parce que originalement, c'est incubé, mais sa femme, qui, Janet Van Dyne, qui, dans le fond, défendait le monde libre dans les années 60-70. Fait qu'on les voit dans quelques flashbacks là, défendre le monde libre contre des menaces russes. On imagine russes, en tout cas. C'est écrit en cyrillique. C'est probablement russe. Alors qu'il ne reste plus que quelques jours de détention à domicile à purger pour Scott Lang, Hope Van Dyne et son père, le docteur Hank Pym, requièrent ses services afin de retrouver la mère de Hope et la femme de Pym, Janet Van Dyne, perdue depuis des décennies dans un autre univers. Ils ne sont par contre pas les seuls à avoir besoin de Janet. Avant, une jeune femme capable de traverser les surfaces solides depuis un accident lorsqu'elle était petite aimerait bien utiliser l'énergie de Janet pour se guérir. Scott et ses acolytes devront agir rapidement pour arriver à sauver Janet à temps. J'ai lu cette description-là et j'étais immensément déçu parce qu'il ne fait pas mention du personnage le plus important du film. Louis, joué par Michael Peña, et le comic relief de ce film-là. Et honnêtement, c'est le meilleur comic relief de l'univers de Marvel. C'est un collègue de prison de Scott Lang qui se ramasse à sortir en même temps que lui et à essayer tant bien que mal de garder son amitié. Ils sont d'ailleurs partis une boîte de sécurité qui s'appelle, de manière vraiment ironique, X-Con. X-Con pour anciens prisonniers. Parce que c'est 3-4 anciens détenus qui tiennent la job. Le type est toujours là pour arriver, trop honnête, toujours en train de partir sur des histoires, en train de raconter sa vie. Bref, Louis, tu es dans mon cœur. C'est réalisé par Peyton Reed, le gars qui a réalisé le premier Ant-Man, ainsi que Yes Man et le film Le Tout pour le Tout.
Oh!
Oh, yeah, je savais qu'on allait chercher des amatrices ici. Paul Rudd reprend le rôle d'Ant-Man. Evangeline Lilly reprend le rôle de Wasp. Ben, à l'époque, c'était pas Wasp, c'était juste Hope. Michael Douglas, Anna John Kamen joue Ava, qui est absolument extraordinaire dans le rôle, qui est une espèce de jeune fille d'origine... En tout cas, ça se passe au Brésil, les problèmes, mais qui se ramasse avec des pouvoirs vraiment louches suite à un accident, puis... C'est un personnage qui est vraiment torturé dans ces histoires-là. On va juste aller écouter la bande-annonce pour se mettre dedans le mood.
Alors, ça fait combien de temps que t'es redevenu Ant-Man?
Pas longtemps. C'est arrivé sans prévenir.
J'aimerais pouvoir me battre contre les méchants comme toi tu fais.
Oui, sauf qu'avec moi, ça finit n'importe comment à chaque fois.
Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider.
Salut!
Un coéquipier.
Docteur Pym, j'ai appris ce qui vous était arrivé. Vous avez ouvert le portail quantique, et là, il y a cette espèce de cinglé de fantôme flippant qui traverse les murs, qui a déboulé, et qui vous a piqué votre matos. Et elle veut s'en servir pour dominer le monde, ou je sais pas quoi. C'est pas dingue, ça. Qui aurait imaginé qu'un jour vous feriez appel à nous?
Sûrement pas moi.
Parce que le cambriolage, chez vous, c'était nous.
Ben, ça a l'air franchement drôle, gentil, un peu accessible pour les familles. Ça a pas l'air d'un film de super-héros dark, sombre, rien de ça, là.
En fait, c'est probablement un des meilleurs films de super-héros en lui-même. C'est-à-dire que sans faire partie de l'univers Marvel, si ce n'était de l'univers Marvel, ce serait un excellent film de super-héros malgré tout. Parce que... Scott Lang, Ant-Man, est un loser. Un loser vraiment gentil, puis vraiment plein de bonnes intentions, mais à chaque fois qu'il réussit quelque chose de cool, il faut qu'en chemin, il trahisse quelqu'un, il foute la merde, il fasse une erreur grave. Bref, c'est comme le gars qui essaye tout le temps.
Il est clumsy.
Non, juste, il a trop sur son assiette en même temps. C'est comme un adolescent qui découvre la vie adulte, mais...
Genre mal ses responsabilités, genre mal son temps...
Ouais, okay. Mais en même temps, il est super charmant parce que justement, il est un peu... il est très candide, on le voit au début du film. Il est en... il est pris à domicile. Il est en emprisonnement à domicile, puis il organise une espèce de jeu d'évasion super compliqué pour sa fille. Il fait super attention à sa fille. On le voit à la maison aussi, qui joue du drum électronique pour pas déranger les voisins. C'est vraiment un personnage super attachant, puis on dirait qu'il comprend jamais vraiment l'importance de ce qu'il est en train de faire. Des fois, on le voit juste se transformer. On voit qu'il y a du fun à faire ça. C'est pas... justement un Batman ou un Superman qui, à chaque geste, à chaque matin, doivent se poser la question de l'importance de leurs actes et du nihilisme d'une existence contemporaine.
C'est ça, c'est plus
léger. C'est juste un gars qui sort de prison puis qui essaie de remettre sa vie à l'endroit du mieux qu'il peut, en aidant ceux qui aiment, puis en chemin, en plantant la patente, des fois. Parce que on a beau faire de notre mieux, ça marche pas toujours.
Eh bien.
En plus de ça, ce que je trouve vraiment intéressant avec Ant-Man, c'est qu'on aurait pu croire que ça allait être un film de super-héros générique un peu banal, mais ils réussissent à faire des scènes d'action vraiment cool en travaillant vraiment fort justement sur les changements de taille.
Métamorphose là, de...
Ouais, mais c'est encore plus impressionnant quand ils sont deux puis qu'il y en a un des deux qui a des ailes. Parce que The Wasp apparaît, la guêpe est là, et la guêpe, c'est le même saut que Ant-Man, mais avec des ailes puis des espèces de... lasers qui peuvent rétrécir ou grossir. C'est très dans le thème du film. Fait qu'il y a aussi beaucoup de scènes drôles où est-ce qu'à un moment donné, il y a une espèce de boîte de Hot Wheels qui sont tous des voitures qui ont été rétrécies. Il y a une scène vraiment hilarante avec un dispenser à pèse géant avec une tronche de Hello Kitty. Il y a aussi une salière qui est utilisée de manière vraiment impressionnante dans une scène de combat. La méchante, ou en tout cas un des personnages qui est problématique dans le film, Eva, peut traverser les murs. Et ils s'en servent également comme dans des scènes de combat qui sont absolument impressionnantes. L'action est vraiment bien faite. Il y a vraiment beaucoup de directions différentes dans lesquelles le film s'en va, que ce soit la compagnie de Scott Lang, que ce soit le laboratoire, les méchants criminels, Eva, l'ancien partner de Hank Pym qui revient dans le film, la femme de Hank Pym. Fait que des fois, le film est trop. Il y a trop d'affaires qui se passent en même temps. Il y a comme trop de conversations, trop de choses qui se passent en même temps. Puis les écrivains font un travail extraordinaire à essayer de récupérer ça puis à en faire un tout cohérent. Mais on sent qu'il y a certaines scènes qui ont comme été coupées. Ou, t'sais, c'est un film de 2 heures. Puis on sent qu'avant l'édition finale, il était peut-être à 2h30. Parce que justement, il y avait une tentative vraiment forte de comme couper sur le gras. Même à 2 heures, des fois, t'as l'impression. En tout cas, c'est ça. C'est un peu lourd à ce niveau-là. Je te dirais que c'est un des gros problèmes de ça. Quelques problèmes au niveau du réalisme, au niveau des insectes. Je te dirais qu'à un certain point, ces gens-là vont tout faire à des cristilles de fourmis. mais c'est comme drôle, puis il y a personne qui s'y attarde vraiment. Il y a beaucoup de techno-babons, c'est-à-dire de choses qui se disent sur la technologie que t'es comme. Ouais, je suis pas convaincu, mais en même temps, c'est pas grave parce que c'est toute partie de l'univers Marvel, puis tout ce qui est autour de l'univers quantique en réalité est déjà basé sur l'univers des comics. C'est-à-dire que dans les bandes dessinées, c'est déjà défini, il y a déjà des trucs qui se passent là-dedans. J'ai été super content de revoir Laurence Fishburne, que l'on connaît dans le rôle de Morpheus, entre autres, qui revient comme étant justement l'ancien partner de Hank Pym. C'est avec lui qu'on voit dans la bande-annonce la version complète, la comparaison de taille qui se fait entre les deux.
C'est très drôle comme moment dans la bande-annonce.
C'est vraiment marrant.
Moi, j'aime la scène dans l'espèce d'auto ou dans le taxi, je ne me souviens plus, dans une auto, là, quand il se transforme, puis là, il...
Oui. Moi, je donne un solide 8.5 sur 10 à Ant-Man et la Guêpe parce que je pense que c'était un des bons films. Oui, il se passe trop d'affaires. Je pense que les scènes d'action étaient quand même malades. Le héros était vraiment adorable. Je veux donner tous les Oscars du monde à Louis.
Il est tellement narcissique, Louis. Louis.
Je commence pas. Non. Non, mais Michael Peña fait un job extraordinaire. Je vais le reconnaître. Si bon, c'est tellement rare que les films de super-héros nous font rire à gorge déployée. Puis il y a au moins 2-3 moments où j'ai dû m'arrêter. Puis je pense que j'ai dérangé mes collègues parce que je riais vraiment fort. J'ai vraiment trouvé ça. Il y a certaines scènes qui étaient à mourir de rire. Là. C'était impressionnant.
Sacré Louis.
Fait que non, c'est ça. Un 8.5 sur 10 à Ant-Man. Non seulement vous avez profité d'un air climatisé bien mérité en ces temps de chaleur, mais en plus, c'est un bon film. Contrairement à mes collègues qui sont ramassés à aller voir des navets.
Ouais, effectivement. Ben merci Louis. We'll be right back.
Donc, Jim, il y a un festival qui est rendu à sa 3e édition sur le cinéma ici à Sherbrooke, qui va avoir lieu encore cet été. Puis, tu as eu la grande chance de faire les recherches là-dessus pour nous en parler.
Oui, en fait, vous connaissez déjà le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke qui a lieu en mai, mais beaucoup de gens ne savent pas, y compris moi-même récemment, jusqu'à récemment, qu'il y avait un autre festival de cinéma en Estrie. Et en plus, il commence ce vendredi 27 juillet. Donc, ça se passe à plusieurs endroits. Il y a pas mal d'affaires le fun. J'ai parlé avec la directrice générale de l'événement, Vanessa Tatiana Berli. Je vous laisse entendre notre conversation au sujet de ce festival Cinévu. Madame Berli, d'où vous est venue l'idée de ce festival Cinévu?
Le festival Cinévu, ça m'a été inspiré par une expérience que j'ai vécue en Europe quand je suis allée présenter un focus sur le cinéma québécois. C'était en Bavière. Je me suis retrouvée sur un bateau à vapeur en plein milieu d'un lac à visionner des films. Et j'ai tellement été emballée par l'expérience que je me suis dit, ben, il faut absolument faire ça au Québec. Donc, ça a été pour moi l'élément déclencheur.
Donc, le festival Cinévu va s'échelonner sur deux semaines différentes, du 27 au 29 juillet et ensuite du 3 au 5 août.
C'est notre troisième année et on a décidé de présenter Cinévu sur deux week-ends. Donc, ça explique le trou qu'il y a entre les deux. C'était juste une volonté d'aller rejoindre davantage les familles qui sont bien souvent beaucoup plus disponibles au week-end qu'en semaine. Donc, on a réparti nos 6 soirées sur 2 week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Donc, dernier week-end de juillet et premier week-end du mois d'août.
Et les projections sont divisées en 6 thèmes. Donc, il y a Ciné-Lac, Ciné-Tarmac, Ciné-Rock, Ciné-Histoire, Ciné-Camping et Ciné-Cours d'un soir. C'est bien ça?
Exactement. Donc, ça a vraiment rapport avec les lieux qu'on a sélectionnés pour cette année. Et on a composé aussi, on a bâti notre programmation également cette année, vraiment en fonction des lieux, pour essayer de coller le plus possible sur l'atmosphère du lieu ou le symbolisme du lieu ou le thème qui s'en dégage. Donc, ça a vraiment été un très, très beau mariage cette année, je dirais, par rapport au lieu versus le choix des films.
J'ai un petit coup de cœur selon votre programmation. Dans votre programmation, j'ai constaté que vous aviez Ciné Tarmac. Tarmac parce que ça signifie une piste d'avion, une piste d'atterrissage. Et donc, il y aura projection à l'aéroport de Sherbrooke du film Arrival de Denis Villeneuve. C'est intéressant, ça.
Oui, c'est intéressant. En plus, pour une anecdote personnelle, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais au retour vers le Québec dans l'avion. Alors, je trouvais ça... intéressant de présenter ce film, donc il sera jumelé avec deux courts-métrages. Je pense que c'est un film qui a beaucoup séduit le public, donc je vous dirais que même les gens qui l'auront déjà vu, le film, le fait de le revoir dans ce contexte justement d'être sur le tarmac à l'aéroport, ça va être vraiment une soirée inusitée et complètement unique, parce que les gens vont arriver... autant en avion, en tout cas pour les propriétaires québécois qui ont des avions privés, autant les gens vont arriver avec les chaises de camping. Donc, tout ça va se mêler ensemble et va faire une soirée vraiment unique.
Le festival Cinévu, est-ce que ça s'adresse à toute la famille?
Oui, c'est un festival qui rassemble la famille. C'est sûr qu'on a pris soin cette année, je dirais, par rapport au... deux années dernières, d'avoir des films qui sont vraiment accessibles, je dirais peut-être à la limite un peu plus grand public aussi, pour justement rentrer dans notre volonté de faire ça sur deux week-ends et d'aller rejoindre davantage de gens. Donc, on a évidemment une grosse portion de films québécois, mais on accueille aussi un focus étranger, donc à chaque année. Et cette année, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, les gens vont pouvoir voir beaucoup de courts-métrages néo-zélandais qu'on a répartis un petit peu sur chacune des soirées.
Alors, le festival fonctionne sur une base de contribution volontaire. Il n'y a pas de coût à l'entrée.
Oui, cette année aussi, effectivement, c'est une nouveauté. Donc, bon, en plus de rendre ça accessible pour les familles d'être présenté le week-end, on rend ça accessible aussi à tous les portefeuilles. Donc ça, c'était un petit spécial qu'on fait cette année. On fonctionne sur contribution volontaire, donc les gens donnent vraiment ce qui leur convient. de donner ce qu'ils peuvent donner. Ils peuvent aussi ne rien donner, là, on sera pas fâchés du tout, mais c'est sûr que tous les encouragements aussi nous permettent de revenir aussi l'année prochaine, donc, mais c'est libre à chaque personne.
L'une des particularités de votre festival, c'est que vous n'êtes pas toujours au même endroit. Donc, il y a plusieurs endroits où il y aura des projections à différents lieux dans la région. Ça veut dire qu'en réalité, votre public risque d'être assez différent d'une journée à l'autre et d'un endroit à l'autre.
Oui, il est différent. Je dirais qu'on fonctionne aussi beaucoup par bouche à oreille. Je l'ai remarqué déjà l'année dernière, il y avait beaucoup de festivaliers qui sont revenus, qui avaient vécu l'expérience la première année. Et qui avait vraiment été emballé justement parce que ben, on se retrouve souvent dans des lieux où généralement on va pas nécessairement voir un écran de cinéma. En même temps, je vous dirais que ça fait connaître des lieux. Il y a plusieurs personnes à qui j'ai parlé de notre soirée justement à l'aéroport de Sherbrooke et les gens étaient surpris. Ils ont dit ben on a un aéroport ici donc même je dirais que ça fait connaître des lieux au public. Donc, c'est autant une vitrine extraordinaire pour le lieu, autant que pour nos films.
Au niveau technique, ça doit être quand même tout un défi là, d'avoir de l'équipement et de monter un système d'écran géant sur un aéroport et à des endroits comme ça.
Oui, on a un prestataire technique donc depuis le tout début qui s'appelle Mediaspect. Donc, c'est une compagnie de la région. Et l'équipe est vraiment formidable. Tout de suite, ils ont... Ma première année, ils ont compris dans quelle direction on voulait aller. Et puis même à chaque année, je trouve que c'est le travail est de plus en plus merveilleux. Puis ça va toujours plus loin. Donc il y a des écrans géants, mais on a aussi cette créativité d'aller éclairer aussi le lieu, donc de lui donner une couleur particulière avec des éclairages. Donc, ça fait vraiment un très, très beau setup pour les gens qui arrivent avec les chaises de camping. Et voilà, donc ça fait des soirées uniques.
Je sais que la question que je vais vous demander, que je vais vous poser, c'est assez difficile d'y répondre, mais si vous aviez un coup de cœur, là, quelle projection, quelle soirée vous choisiriez dans votre festival?
Ça, là, c'est très difficile comme question. Parce que je veux pas pénaliser les autres ou rendre une soirée ou un lieu, c'est-à-dire que comme si c'était pas mon coup de cœur. Je vous dirais que c'est sûr que ça reste quand même 6 très belles soirées. Je pense que c'était aussi votre coup de cœur, le Ciné Tarmac. C'est sûr que c'est vraiment quelque chose de complètement inusité. D'ailleurs, on va présenter pendant cette soirée un film surprise que je ne peux pas vous dévoiler le titre. Mais c'est un film québécois, un court-métrage qui a été tourné à l'aéroport de Sherbrooke cette année.
Ah ouais.
Et donc, on a le privilège de présenter en première ce film, donc en présence du réalisateur. Ça va être une belle surprise pour les gens. Donc, surtout que le tournage a eu lieu à cet endroit. Ça demeure quand même une soirée inusitée. Je remarque aussi autour de moi que les gens sont très ont les yeux tournés beaucoup vers cette soirée. Mais je vous dirais que notre ouverture aussi est un coup de cœur Ciné-Lac. On va présenter le court-métrage Fauve de Jérémy Comte, donc un film aussi qui a été tourné dans la région. Et ça va être la première estrienne du film. Et je sais que c'est un film qui a remporté énormément de prix et qui est aussi très, très, très attendu. Donc, j'espère vraiment, vraiment que les gens vont profiter de ces occasions pour venir découvrir ces beaux films québécois.
En tout cas, vous avez piqué ma curiosité. Les deux événements dont vous parliez, le Ciné Tarmac et Ciné Lac, ce sera ce vendredi et ce samedi 27 et 28 juillet. Donc voilà, je pense que j'invite nos auditeurs à y aller en grand nombre. Ça risque d'être très intéressant.
Si je peux parler d'une autre soirée, ce serait celle du Ciné Rock. Parce que je vous explique rapidement, on va installer l'écran géant à la place Nikitothèque. Donc en ce moment, si vous le savez, il y a la production Starmania qui a lieu. Donc on va installer l'écran géant dans les décors de Starmania. Et on a fait récemment une association avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Donc les gens de 5h à 7h pourront aller au musée, visiter l'expo sur le rock'n'roll gratuitement. Et venir après, donc à partir de 19h à la place Nikitothèque, il va y avoir un DJ et suivront la présentation des films. Donc, ça risque d'être une soirée vraiment très intéressante et très rock'n'roll.
Ça a l'air effectivement très intéressant. Merci beaucoup pour cette entrevue, Mme Berly.
Merci. Au revoir.
C'était Vanessa Tatiana Berly, directrice générale du festival Cinévue, qui va se dérouler à Sherbrooke et dans les environs. Donc, je vous recommande fortement d'aller faire un tour. Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site web de l'événement, cinévue.ca, cinévue avec un E à la fin. Et voilà, je vous recommande d'aller faire un tour à ce festival qui va être, ma foi, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir comme festival. Et on s'en reparle certainement la semaine prochaine.
Super, on a hâte.
Merci, Jem. Sur ce, ce serait la fin de Cinébrunch. On vous souhaite à tous et à toutes un excellent popcorn, une bonne semaine et un très bon cinéma.
Bonne semaine!
Bonne semaine!